High Speed Dating. Découvrez vos pilotes favoris au-delà de la F1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau High Speed Dating dans Analyse F1, aujourd'hui consacré à Valtteri Bottas. Avant de parler du pilote finlandais, j'aimerais revenir sur quelque chose qui me tient à cœur, puisque je vais revenir sur un certain point du dernier podcast. Et je tiens tout d'abord, il faut le faire en début de podcast, comme ça c'est pas dans les oubliettes en fin de podcast ou ailleurs, et surtout le faire juste après le précédent podcast me paraît également pertinent et nécessaire. Je tiens à présenter mes excuses aux personnes qui se sont légitimement sensibilisées par mes propos concernant le thème que j'avais abordé là concernant les réseaux sociaux. J'avais cité un exemple personnel et c'était une grosse erreur de ma part. Je n'aurais pas dû citer de partir, on va dire, aborder le sujet sous le prisme d'un cas personnel. J'aurais dû prendre plus de hauteur par rapport à aux réponses que j'avais eues sur les réseaux sociaux, prendre plus de recul tout simplement et mieux analyser la chose. On est dans Analyse F1 et également là c'était une grosse erreur de ma part, je pense, que je regrette. Je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû tout simplement citer un autre exemple. Il y en a 10 000 des exemples sur les réseaux sociaux pourtant, que je croise tous les jours, que ce soit sur Facebook ou Twitter et qui ne me concernent pas, et j'aurais dû prendre plutôt ces exemples-là. Ça n'aurait pas altéré le podcast tel que ça l'a fait. Je ne pensais pas à la base que ça l'altérerait autant. Mon but, ce n'était pas de créer le moindre clash ou drama, c'était juste de citer un exemple pour servir une argumentation. Seulement voilà, c'était assez naïf et bête de ma part de faire ça, puisque évidemment, quand on écoute ce genre de podcast qui dure très très longtemps, eh bien, on va avoir tendance à retenir plus facilement l'aspect, on va dire, entre guillemets, clash, drama, qui n'était pas du tout dans mon intention, hein, je le répète, hein, c'était vraiment pas du tout dans mon intention, c'était juste de donner mon opinion, mais j'ai eu tort. Il reste que même si mon intention n'était pas mauvaise, j'ai eu tort de vouloir aborder le sujet comme ça. Il y avait d'autres manières meilleures d'aborder le sujet des réseaux sociaux que je voulais aborder et qui auraient été un peu plus positives, parce qu'en plus ça crée un peu de sentiments négatifs autour du podcast, autour de mes propos. Et du coup, il y a quelque chose qui est lié. Je tiens à vous présenter mes excuses également à vous, chers auditeurs, puisque tout simplement, ça a allongé le temps du podcast, qui était anormalement long, hein, 50 minutes au lieu de 30 à peu près, même plus de 50 je crois. C'était plutôt un temps émission, on va dire, format émission, sauf que là il n'y avait pas de pause musicale, donc ça devait être assez lourd à écouter, à assimiler. Et oui, et d'autant plus que la deuxième chose pour laquelle je vous présente mes excuses, c'est que du coup, les autres éléments d'analyse qui pour moi étaient beaucoup plus importants, par exemple sur le règlement F1, n'ont pas été bien assimilés. C'est ce que j'ai pu voir après quand même plusieurs retours, parce que finalement, ce que j'avais dit apparemment, ça a vraiment pas été assimilé, mais ça c'est compréhensible parce que 50 minutes de podcast, j'ai passé trop de temps sur des éléments, sur des éléments mal abordés, donc l'histoire du thème des réseaux sociaux en abordant un cas personnel, donc forcément, on va avoir tendance à plus retenir ça. En plus, c'était en milieu de podcast, au cœur du podcast. Donc ouais, c'était pas vraiment bien fait de ma part, même c'était mal fait de ma part, hein, je le reconnais. Donc si c'était à refaire, je le referais évidemment autrement. Sur le fond, je n'enlèverai pas grand chose, mais pour faire mieux passer le fond, mieux comprendre le fond, avoir une autre forme aurait été mieux, et aussi pour faire passer le fond des autres thèmes comme le règlement F1, je le répète, mais je le regrette vraiment. Ça, du coup, la qualité du podcast en a été entachée, et je ne peux que vous présenter mes excuses pour ça, parce que je suis le premier gêné par ça. Du coup, quand je me suis rendu compte avec du recul, j'ai dû avoir du recul pour me rendre compte de ça, et je me suis dit, ah ouais, finalement, les auditeurs et les gens qui sont sensibilisés, l'aspect règlement F1, finalement, soit c'était, ça représentait pour eux, ça représentait pour vous, du coup, une petite partie du podcast, trop petite pour l'importance que j'en donne dans ma tête, hein, je répète, soit ou bien et également, ça a été mal assimilé parce que finalement, ce que je voulais faire ressortir à propos de ma critique du règlement et de sa refonte nécessaire, finalement, ça a été passé à la trappe, malheureusement. Ça a été noyé, tout simplement, c'est le bon mot, ça a été noyé sous le reste. Et ça, c'est bête, parce que j'aurais voulu que ce soit plutôt au-dessus de l'eau. Voilà, donc toutes mes excuses à tout le monde, hein, les personnes qui sont sensibilisées, et à vous, chers auditeurs, évidemment, puisque vous êtes également parmi les premiers concernés, et voilà. Et je me présente mes excuses également, parce que franchement, c'était pas quelque chose à faire. Bref, ceci étant dit, maintenant, on va commencer à speed dating sur Valtteri Bottas. Alors, vous allez me dire, Valtteri Bottas, ok, mais il y a un pilote qui a remporté une course cette saison, c'est Max Verstappen. Et oui, en effet, les délais entre l'high speed dating étant longs, c'était normal qu'à un moment, il y ait une petite modification dans les palmarès de chacun et que, y ait un pilote qui vienne s'immiscer, on va dire, dans la suite logique des high speed dating. Parce que je le rappelle, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas écouté les précédents high speed dating ou que vous n'en avez pas écouté beaucoup, je fais par ordre de palmarès, donc déjà les titres, ensuite les victoires, ensuite par ordre décroissant de podium, etc. Seulement, j'avais déjà fini ceux qui avaient remporté déjà au minimum une victoire. J'ai fait Grosjean, j'ai fait Rosberg. Non, j'ai, pardon. Qu'est-ce que je dis? J'ai fait Grosjean et j'ai fait Grosjean, ça c'est sûr. Mais après, je ne sais plus si j'ai fait quelqu'un d'autre qui n'avait pas remporté de victoire. Bref, il y a Max Verstappen en Espagne qui a remporté une course. Donc, normalement, j'aurais dû l'intégrer là, mais pour deux raisons, je vais pas le faire. Tout d'abord, parce que ces dernières semaines, j'ai pas mal parlé du pilote néerlandais en long, en large, en travers. Du coup, ça ferait un peu redite et ce serait pas vraiment pertinent et ce serait un peu peut-être lourd un peu d'entendre toujours parler du même pilote. Faut un peu varier, même si il fait parler de lui comme il fait partie des comment dire des pilotes qui luttent pour le podium régulièrement maintenant. Donc c'est normal que je parle de lui souvent. Et ensuite, parce que je vais faire dans une logique de podium pour Max Verstappen, c'est-à-dire que je vais poursuivre ma logique. Maintenant, je peux pas revenir en arrière, pas possible. J'ai pas de DeLorean, donc c'est pas possible. Et logiquement, hein, la logique. Et donc je vais faire par logique de podium. Donc je vais continuer là avec aujourd'hui Valtteri Bottas. Ensuite, je crois que c'est Sergio Pérez de mémoire. Et ensuite, ça sera peut-être Max Verstappen. Oui, parce que le temps que je fasse tout ça déjà, Max Verstappen aura le temps de peut-être de faire des podiums. Donc on verra. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas le pilote néerlandais. Il arrivera. Par contre, il y a un pilote, Rio Arianto, qui manifestement n'arrivera pas de sitôt, sauf s'il arrive à reconquérir un bac en F1, mais ce sera pas pour tout de suite. Donc bon, désolé pour les fans, hein, s'il y en a, du pilote indonésien. Mais malheureusement, voilà, le format veut également ça, c'est que je n'aurai pas le temps de traiter vraiment tous les pilotes, mais du coup, je pourrais traiter les nouveaux. Et oui. Donc peut-être qu'Esteban Ocon y passera, Pascal Wehrlein également. Faut qu'il reste en F1 parce que là il me reste quand même pas mal de pilotes à traiter avant tout ça. Donc ouais. Bref, aujourd'hui parlons du pilote finlandais Valtteri Bottas. Bottas est né le 28 août 89, ce qui fait qu'il a 26 ans et qu'il aura bientôt 27. D'ailleurs, attendez, là on est le 24 août hein, quand j'enregistre le podcast. On est mercredi. Hein, jeudi 25, vendredi 26, ah ouais, il aura 27 ans, 27 ans le jour du Grand Prix de Spa-Francorchamps, du Grand Prix de Belgique. Ah, c'est beau, le jour de son anniversaire, on verra ce qu'il pourra faire. Donc voilà, ça reste un pilote assez jeune, hein, qui a quand même pas mal d'années devant lui. Et qui en a aussi pas mal d'années derrière dans Sport Auto, et c'est ça, c'est sur ces années surtout que je vais revenir. Donc il nous vient de Nastola en Finlande, c'est une ville qui se trouve à 120 km environ au nord d'Helsinki, donc pas non plus hyper loin de la capitale. Concernant le sport auto, il commence le kart à 6 ans, donc assez jeune, et il va en faire pendant 11 ans, donc jusqu'en 2006, et pendant toutes ces années, il se fait déjà remarquer parce qu'il gagne un nombre de courses et de titres incroyables, et d'ailleurs ça lui vaut l'honneur de faire partie de l'équipe nationale de karting finlandaise pendant 7 ans. Donc déjà, être dans une équipe nationale de karting alors que le pilote est mineur comme ça fait parler quand même, ça fait parler. Et d'y rester pendant 7 ans, c'est pas mal. Parmi ses principaux faits d'armes, je ne les ai pas tous notés, et de toute façon, ils ne sont pas non plus tous accessibles facilement. Je remercie le site DriverDB Database, DriverDB Database, avec mon superbe accent, qui est un site qui recense pas mal les performances en karting de pas mal de pilotes, et qui m'a aidé du coup à faire ce podcast, tout comme bien d'autres sites. Ben, je vais les citer du coup, StatF1, Formula1.com, le Wikipédia anglais de Valtteri Bottas, le site officiel de Williams, il me semble, je m'en suis servi. Et globalement, et c'est tout, je crois, hein, je crois que c'est tout, globalement. Il n'en a pas fallu de plus pour faire ce podcast. Et voilà, et tout simplement mes connaissances pour la F1, évidemment. Je fais pas que du copier-coller quand je vous prépare ce podcast. Hein. J'essaye également d'apporter ma petite touche. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt vu que tout un chacun pourrait découvrir tout ça. Donc l'intérêt, c'est de vous faire vraiment découvrir l'évolution d'un pilote et d'essayer d'expliquer cette évolution et également de l'expliquer via le prisme de l'évolution des autres pilotes qu'on a vu précédemment dans High Speed Dating. Et c'est ça également qui est intéressant, de faire des comparaisons, des analogies, et de voir que finalement il y a des parcours qui sont assez similaires et que arriver en F1, c'est rarement par hasard, hein, voire jamais par hasard, hein, à part le 1%, voilà, mais sinon c'est tout le temps dû à des performances et on va dire à des bonnes rencontres également durant la carrière, mais des rencontres provoquées par du talent. Donc voilà, bref, en 2004, Valtteri Bottas, donc en 2004, il avait quel âge? Il avait 15 ans à peu près. À 15 ans, 14-15 ans, il est champion de Finlande ICA Junior. En 2006, la catégorie au-dessus, est champion de Finlande ICA tout court. Hein. Et la même année, il se hisse au niveau international, puisqu'il est champion WSK International Series du championnat Formula. Donc c'est quand même un championnat, le championnat Formula, on l'a déjà retrouvé dans bien des High Speed Dating. C'est un championnat réputé de karting dans le monde, et de pouvoir être champion dans cette catégorie, ça fait parler. Notamment, il a croisé la route de Jules Bianchi lors de cette année-là, de ce championnat. Jules Bianchi qui est réputé être un formidable pilote de karting. Hein. Donc c'était vraiment un gros fait d'armes, hein, pour Valtteri Bottas. Et il y en a eu bien d'autres, hein, que je n'ai pas là, mais celui-là c'est vraiment très important, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui va l'emmener en monoplace, hein. Enfin, il va faire le tremplin en monoplace en 2007, en tout cas à l'âge de 17 ans. Il va commencer par la Formule Renault 2.0 cette année-là. La Formule Renault 2.0 NEC, dans une écurie 100% finlandaise, donc pas non plus un top team, hein, mais pourtant il fait une belle performance puisqu'il termine 3e, hein, de ce championnat pour sa première saison en monoplace en plus. Il écrase littéralement ses compatriotes qui lui servaient de coéquipier. Et même plus que ça, il inscrit ses premiers podiums et ses premières victoires en monoplace dès sa première saison. Donc évidemment, quand on commence comme ça, c'est logique qu'après on accède, on va dire, à des teams de meilleure qualité, c'est ce qui arrivera en 2008. Mais avant ça, en 2007, il a également participé à la Formule Renault 2.0 au Winter Series de cette Formule Renault 2000. Et il l'a remporté sur la piste avec 3 victoires sur 4 courses, mais malheureusement, il a été compté comme non classé car il n'avait pas de licence valable pour cette compétition, ce qui paraît assez fou, mais c'est le cas. Et du coup, voilà, mais il faut quand même le citer quand même, parce qu'il a quand même remporté 3 victoires sur 4. Donc voilà, c'est un pilote qui commence à faire parler de lui et qui en tout cas gagne à mériter de meilleurs baquets. Du coup, en 2008, logique, il y a un transfert de Valtteri Bottas chez le top team Motopark Academy. Et là, ben, il fait le boulot, comme beaucoup d'autres pilotes qui sont maintenant en F1 et l'ont fait avant lui. Première saison, on fait des performances, voilà, mais on gagne pas le titre. Et deuxième saison, on gagne le titre, on fait le boulot. Et ben là, il a fait le boulot, il a remporté le titre en Formule Renault 2.0 NEC. Et voilà, et de quelle manière en plus? De quelle manière? Parce que là, c'est 12 victoires sur 14 courses. Alors le championnat comptait 16 courses, mais Bottas en a loupé 2. Il n'a pas participé à 2 manches en fait du championnat. Du coup, sur les 14 courses qu'il a disputées, il en a remporté 12. C'est quasi un carton plein. Et On peut dire que là, le titre, est totalement mérité, qu'il mérite de passer à une formule supérieure, hein, vraiment. En 2008, ce n'est pas tout, puisqu'il remporte la Formule Renault Eurocup avec 10 podiums, dont 5 victoires. 5 victoires sur 14 courses, 10 podiums sur 14 courses, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal là aussi. Donc voilà, il remporte quand même deux championnats avec pas mal de courses. C'est pas mal quand même, hein. C'est vraiment, ça fait parler. Il a quand même participé à pas mal de meetings, hein, cette saison-là, et il a su tenir et remporter deux gros championnats. Et il y avait un plateau plutôt relevé en 2008 en Eurocup, puisqu'il a croisé le chemin notamment de Daniel Ricciardo, Roberto Merhi et Jean-Éric Vergne. Donc ces trois pilotes ont pu accéder à la F1, je le rappelle. Après une telle saison de folie, hein, dans deux catégories, il est repéré par des observateurs un peu avisés. Bon, il aura le soutien financier à partir de maintenant, et un management aussi, bah ouais, un soutien financier à la fois du côté du management, tout simplement par Toto Wolff. Bon, à l'époque, il n'était pas, je rappelle, on était en 2008, donc il n'y avait pas l'écurie Mercedes, il n'avait pas les fonctions d'aujourd'hui, il n'était même pas encore chez Williams encore à l'époque, mais voilà, il était quand même dans le milieu. D'ailleurs, si on regarde son historique à Toto Wolff, si je me souviens bien, il est dans le milieu depuis quand même assez longtemps. Et également, pas que Toto Wolff, Mika Hakkinen également. Mika Hakkinen, ah ouais, il a pas fait de la F1, lui, mais si, double champion du monde. Et oui, bah oui, là je fais de l'ironie. Mais oui, évidemment, Mika Hakkinen, le double champion du monde, donc un pilote finlandais. Donc être repéré par son aîné, son illustre aîné, le plus illustre des pilotes finlandais, ça fait parler. Et également par Didier Coton, qui est le manager de Mika Hakkinen. Donc on va dire qu'il est bien entouré, plutôt bien entouré. Et Bottas augmente par là son envergure, parce que avec ces soutiens-là, quand même, des gros noms, eh ben ça représente quelque chose. Et il sait que la suite de sa carrière peut être trop tracée s'il respecte ses engagements et s'il continue à être aussi bon en monoplace, puis en F1, parce que là l'objectif, clairement, maintenant, c'est l'accession à F1 avec un tel entourage. On arrive en 2009. 2009, il participe au très relevé championnat des F3 Euro Series. Il termine troisième de ce championnat avec Hart Grand Prix, donc quand même il était avec un top team, hein, Hart Grand Prix. Pas de victoire, hein, c'est assez surprenant, pas de victoire, mais 6 podiums quand même dans cette catégorie. Il a croisé de nouveau cette année-là Jules Bianchi, avec qui, ben, d'ailleurs ils étaient coéquipiers les deux. Coéquipier, d'après les propos de Valtteri Bottas, malheureusement suite au décès de Jules Bianchi, ils sortaient pas mal ensemble. Ils ont fait des sorties quand même ensemble quand ils étaient jeunes. Bref, ça c'est pour l'anecdote qui est pas forcément utile. Il a croisé également le chemin de Roberto Merhi, encore une fois, et de Esteban Gutiérrez, donc dans CF3 Euro Series, la QV 2009. Mais cette année-là, il surprend. Parce que il gagne les Masters de Zandvoort, donc c'est une course unique, hein, et il finit cinquième du Grand Prix de Macao. Enfin, c'est une course unique ou bien c'est deux courses, mais en tout cas c'est un seul meeting qu'il remporte à Zandvoort aux Pays-Bas, et il finit cinquième du Grand Prix de Macao. Donc c'est des performances qui parlent parce que sur deux, on va dire sur deux courses mythiques, on va dire, c'est très dur. On l'a vu, hein, précédemment, j'ai rarement vu même des très bons pilotes faire quelque chose à la fois à Zandvoort et Macao. Et ben Valtteri Bottas arrive à faire des grosses performances là-dessus, donc c'est pas mal. En plus de ses résultats en F3 Euro Series qui sont tout à fait honnêtes. En 2010, il ne remporte pas le championnat F3 Euro Series, il termine troisième, il croise de nouveau le chemin de Roberto Merhi. Mais le point positif, c'est qu'il remporte ses premières victoires dans le championnat, donc il y a une progression. Et ensuite, voilà, il fait parler encore plus de lui par les meetings mythiques de Zandvoort et Macao, parce qu'il remporte une nouvelle fois pour la seconde année consécutive le meeting de Zandvoort, et il termine sur le podium à Macao troisième. Donc rendez-vous compte, hein, sur 2 années, il a fait premier Zandvoort, cinquième Macao, premier Zandvoort, troisième Macao. C'est la première fois que je vois ça dans tous les pilotes pour l'instant que j'ai vu dans Speed Dating. Donc avant lui, j'ai vu tous ceux qui ont un plus gros palmarès que lui. Il n'y en a pas un qui a ça. Hein. Il n'y en a pas un qui a ça. Donc évidemment, ça a fait parler sur ces pistes mythiques. Et c'est en plus, c'est le premier pilote, voilà. C'est le premier pilote de l'histoire à conserver son titre à Zandvoort. Voilà, il faut le citer, il faut le dire. Donc il rentre dans l'histoire avec ça. Donc même s'il n'a pas remporté les F3 Euro Series, il a quand même, on note quand même une progression dans cette catégorie, et ensuite, ben, il est là sur des meetings importants. Donc, il remplit quand même plutôt bien son contrat. Suite à cela, du coup, en 2010, il devient pilote d'essai Williams. Et oui, donc son management a aidé. C'est utile de se faire repérer et d'avoir autour de lui, autour de soi, Toto Wolff, Mika Hakkinen et Didier Coton. Et évidemment, parce que eux, ils vont pouvoir s'occuper en off des, comment dire, de l'avenir de Valtteri Bottas. Et Bottas peut se concentrer sur son pilotage et sur tout, quoi. Donc voilà, du coup, les liens avec Williams sont noués et sont encore présents aujourd'hui vu qu'il est encore il est pilote officiel Williams, et c'est donc le début en 2010 d'une longue et belle aventure dans le milieu de la F1, dans le giron de la F1, puis définitivement en F1. Mais avant d'entrer complètement dans ce milieu fou qu'est la F1, dans ce paddock, eh bien en 2011, il participe au championnat GP3, et là ben dès la première saison, il n'y a pas de comment dire. Il n'y a pas de mystère, il remporte directement le championnat. Il y croise Rio Arianto notamment durant cette année 2011. Donc voilà, première saison, il remporte. Donc il prouve bien qu'il est un pilote sur lequel il faut compter en F1. Et d'ailleurs, Williams ne s'y trompe pas et le garde avec lui. En 2012, il sera pilote d'essai à plein temps chez Williams avant d'entrer dans le grand bain. Donc là, généralement, c'est une période assez risquée hein, pour les pilotes quand ils sont pilotes d'essai à plein temps. Mais qui participent pas dans le même temps à une autre catégorie. C'est risqué, on a vu pas mal de pilotes, on va dire, arriver à pas grand-chose par la suite. On se souvient de Davide Valsecchi avec Lotus, il me semble que c'était avec Lotus, ça s'appelait Lotus à l'époque. Il y a plein d'exemples hein, comme ça hein, qu'on pourrait citer. Mais heureusement pour Valtteri Bottas, il a pu en 2013 saisir l'occasion qui lui a été donnée d'entrer chez Williams. Il devient pilote officiel. Donc avec une Williams, pas non plus, c'était pas un foudre de guerre en 2013, loin de là. Mais après, on a pu le comparer à son coéquipier qui n'était d'autre que Pastor Maldonado. Et en 2013, ben au niveau du pilotage, Maldonado, c'était pas ça. Ça, c'était définitivement en 2013, c'est là qu'on a vu qu'il pourrait rien faire, Maldonado. Il pourrait pas revenir à un niveau qu'il aura pu obtenir en Espagne en 2012 ou lors de ses qualifs à Singapour en 2012 également. Je me souviens d'un superbe tour de sa part. Mais c'est un talent gâché, Maldonado, hein, champion GP2, qui ensuite a fait une très bonne, enfin une, non, une, c'est une moyenne saison en 2012 finalement. Il remporte un Grand Prix, donc certes c'est énorme pour lui, mais ce qu'il fait par la suite, c'est pas bien, c'est très irrégulier. Il aurait pu rapporter beaucoup plus de points à son écurie. Il a gâché pas mal d'opportunités, il s'est pris des pénalités bêtes, que ce soit en 2012-2013. Bref, non, c'était pas un bon pilote, hein. Et en 2013, d'autant plus. Donc là, on est en 2013, et Valtteri Bottas rivalise durant toute la saison avec Maldonado, et le bat même à plusieurs reprises. Et même la meilleure performance de Williams a été marquée par Bottas cette saison-là, puisqu'il finit en 8e position. Donc voilà, la Williams était vraiment pas en forme, mais c'est quand même Bottas qui a fait plus le boulot que Maldonado cette année-là. Donc c'était assez grave quand même. Sachant que Maldonado avait beaucoup plus d'expérience et une victoire à son compteur, ça fait mal pour le pilote vénézuélien. En 2014, Bottas est logiquement conservé par Williams, mais il aura un nouveau coéquipier en la personne de Felipe Massa. Donc là, un autre calibre. Et c'est là qu'on peut voir son évolution à Bottas. Il était avec un pilote comme Maldonado, voilà, certes. Et là, il se retrouve avec un pilote comme Massa qui a pas mal de victoires à son compteur, qui vient d'une grosse expérience chez Ferrari et qui vient chercher de la fraîcheur chez Williams et retrouver un niveau qu'il pouvait avoir auparavant. Bon, malheureusement, on sait que Massa n'a pas retrouvé son niveau de 2008 ou 2007, ça c'est sûr, son niveau pré-accident, j'ai envie de dire. Mais il a retrouvé quand même des couleurs, Massa, cette année-là, et un niveau de performance peut-être légèrement plus, ouais, plus performant que chez Ferrari, où il était vraiment atteint psychologiquement, hein, il faut le dire. Même s'il a, il garde dans son cœur évidemment l'écurie au cheval cabré, comme tous les pilotes généralement le font. Donc voilà, et Bottas crée la surprise hein, cette saison-là, puisque c'est un des pilotes qui se révèle. Il fait partie des deux grosses révélations de la saison 2014 avec Daniel Ricciardo, il faut le dire. Bottas s'avère être un pilote propre, qui déjà en 2013 avait montré des bonnes choses dans des conditions pluvieuses et en plus avait marqué quelques points. Bon, les conditions pluvieuses, il montrera un peu moins de bonnes choses par la suite, mais bon, en même temps, la monoplace de 2013 comparée aux suivantes sont très très différentes quoi. Donc c'est pas très comparable. Bref, ça reste un pilote qui, quand il dépasse Bottas, c'est tout le temps propre. On n'a rien à dire dessus, un pilote rapide qui a un très gros rythme, qui est efficace en qualif, efficace en course, bref, très complet durant cette saison-là. Et il reste jeune, en 2014, il a à peine 25 ans, donc c'est cool. C'est plutôt cool. Et il inscrit 6 podiums quand même. Dans la seule saison 2014, 6 podiums. Il se classe 4e au championnat du monde des pilotes, ce qui est énorme. Il est plus de 50 points devant Felipe Massa. Hein. Plus de 50 points devant Felipe Massa, ça parle quand même. Ça parle vraiment. Donc, Valtteri Bottas se révèle et on parle déjà... Il y a déjà des rumeurs le concernant qui commencent. En 2015, c'est une saison où il est un peu moins en vue. Il finit 5e quand même du championnat du monde des pilotes, donc c'est très bien. Et il marque 2 podiums. Il est un peu moins devant Massa durant cette année-là, 15 points, mais il est quand même devant. C'est ce qu'il faut se dire. Il bat 2 fois de suite Felipe Massa avec Williams. Et cette année-là, il y a une sorte de rivalité finlandaise qui s'installe avec Raikkonen après l'accrochage en Russie, avec Raikkonen qui a tenté son va-tout au dernier tour. Et ensuite, au Mexique, l'accrochage où Valtteri Bottas a été assez rude dans l'action. On le connaissait pas comme ça. Il a été assez rude avec son compatriote. Mais après, bon, c'est assez vite retombé finalement. Faudra quand même voir quand les deux se retrouveront en piste ce qui va se passer. Mais voilà, je pense pas qu'il se passe non plus grand chose. Mais c'était une sorte de petit feuilleton qui nous a occupé durant la saison dernière. Donc voilà. Il faut pas enlever les bonnes performances de Bottas durant cette saison 2015, comme durant la saison 2016 d'ailleurs, parce que certes on le voit beaucoup moins, on l'a pas trop vu l'année dernière, mais c'est dû aux performances de la Williams qui était bonne sur l'ensemble du plateau. Williams était la troisième force, mais la troisième force loin derrière les deux autres et pas mal loin devant les autres. Du coup, en course, souvent, on voyait Williams qui était esselé nulle part, qui faisait leur course tout simplement, mais qui n'avait aucune lutte à faire. Il y avait qu'une lutte limite entre coéquipiers et encore. Et c'était rare qu'on les voyait à la lutte autre part. Donc voilà, forcément, on voyait beaucoup moins les pilotes Williams. Mais quand même, il faut quand même observer les courses qu'ils ont fait. Ils ont faites, pardon. Et quand on regarde l'ensemble de la saison, Bottas a fait le boulot tout simplement. Et même plus que ça, il finit encore devant son coéquipier, 2 podiums, c'est pas mal. Cette année-là, 2015 a aussi été marqué pour Bottas par un gros truc, c'est les rumeurs de transfert incessantes autour de lui et d'un éventuel transfert chez Ferrari. Alors ça, c'est l'arlésienne, hein, c'est le fil rouge. À chaque fois, tous les ans, il y a des rumeurs selon lesquelles Raikkonen va prendre sa retraite et que du coup, la place va être libre. Mais ça fait des années que c'est comme ça. C'est assez lourd d'ailleurs. Et ça a été assez lourd à porter pour Valtteri Bottas qui a avoué avoir été perturbé par ces rumeurs de transfert, parce que oui, lui, dans un coin de sa tête, il est dans l'optique d'être dans un meilleur baquet, surtout l'année dernière où avec Williams c'était un peu compliqué par rapport à 2014, donc il a des envies d'ailleurs, et quand on évoque ces rumeurs, ben voilà, c'est évidemment, ça lui retombe à ses oreilles, et c'est assez compliqué, ça peut être assez compliqué à gérer. Ça reste un jeune pilote, même si voilà, il avait 26 ans à l'époque, je crois, 25-26. Donc, mais bon, c'était assez compliqué. Puis en plus, il y avait son management, son entourage, donc Didier Coton, Mika Hakkinen, etc., qui n'aidait pas trop parce qu'il démentait pas les rumeurs de Bottas chez Ferrari. Donc voilà, c'était pas forcément évident à gérer pour Bottas, qui finalement n'a pas eu de baquet Ferrari du tout. Et ça, ça a été plutôt assez dur pour lui. Donc voilà, mais il a quand même fait le boulot, hein, il faut le noter, avec peut-être une partie de la saison où Massa était un peu plus au-dessus, d'ailleurs peut-être cette partie-là où Bottas a été perturbé, mais il faut faire attention, quand on est dans le milieu de la F1, c'est des choses qui peuvent arriver, on est facilement envahi par la presse, par les médias, les rumeurs, et il faut savoir gérer tout ça, il faut faire du travail sur soi, je pense, pour gérer tout ça. Ça peut être assez compliqué, parce que c'est vraiment une fourmilière, quoi, donc... Mais Bottas a plutôt bien géré ça de manière sportive finalement. Nous nous plaçons maintenant en 2016, donc cette saison. C'est un peu la même qu'en 2015, hein, au début de la saison, avec une monoplace qui entre deux eaux, voilà, il faut le dire, qui n'est pas très bonne en plus, qui a une base très compliquée à développer et à améliorer surtout. Une base très compliquée à améliorer parce que les développements ne marche pas sur la Williams, malgré des promesses en début de saison. Je me souviens, en début de saison, ils avaient dit, ouais, on va introduire une nouvelle évolution qui devrait nous permettre de nous hisser plus devant. Ils ont introduit l'évolution et ça n'a rien fait. Pourquoi? Parce que à la base, ils ont gardé, on va dire, la même base de châssis qu'en 2015. Et en 2016, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La base est trop dure à améliorer. Il faudrait revoir tous les plans et repartir sur de nouvelles bases, en fait, chez Williams, sur la monoplace. Refaire une 2014, en fait. En 2014, ils ont été très intelligents. Nouveau sponsor, nouveau pilote. Je crois nouveau moteur également en 2014, si je me souviens bien. Enfin bref, ils ont revu également leur structure en interne, leur façon de concevoir la monoplace également, et ça a porté ses fruits. Mais là, il faudrait refaire un peu la même chose concernant l'usine, parce que Williams va s'enfoncer sinon. Williams va vraiment s'enfoncer s'ils ne se remettent pas en question, ils ne remettent pas en question la base de leur monoplace. Et du coup, ça va de mal en pis déjà, hein. On le voit déjà au sein même de la saison 2016, puisque Williams maintenant est à la lutte, certes, mais à la lutte avec Force India. Et oui, donc c'est assez triste, hein, pour Williams qui regarde en arrière au lieu de regarder devant. Bottas, de son côté, fait toujours le boulot, même voilà, si on sent bien qu'il aimera encore une monoplace plus performante, tout comme Felipe Massa d'ailleurs. Et c'est compréhensible, c'est compréhensible. Nous aussi, on veut voir Bottas exprimer son niveau avec une monoplace à la hauteur de celui-ci. Son talent s'était exprimé en 2014, on veut le voir encore plus éclater par la suite, c'est normal. Il faut que ce soit dans la continuité. Malheureusement, il y a un petit coup d'arrêt là, mais qui n'est pas de son fait, hein, vraiment qui n'est pas de son fait. Le paddock a tendance à facilement oublier les pilotes. Moi, je n'oublie pas Valtteri Bottas, ça fait partie des très bons espoirs de la F1, tout comme l'est Daniel Ricciardo, tout comme peuvent l'être d'autres. Mais vraiment, hein, Valtteri Bottas, attention, attention à l'avenir, ça peut être un pilote qui peut lutter pour les victoires, ben, sous réserve qu'il ait la monoplace pour, et qu'il conserve la niaque, évidemment, et la concentration nécessaire. Cette saison, quand même, il a réussi à faire un podium au Canada, ce qui est très fort. Il domine Massa de 20 points pour le moment, ce qui est pas mal, mais la saison est encore longue. Mais il est quand même encore devant Massa, hein, 2 ans et demi à être devant Massa. Ça fait parler quand même. Et il est 7e au championnat du monde pilote, ce qui est honnête. Ce qui est honnête. Et il est derrière en plus. En étant 7e, il est derrière les 3 teams qui sont largement devant et que Williams pourra vraisemblablement pas rattraper cette année. C'est-à-dire Mercedes, Red Bull et Ferrari. Donc c'est bien, il fait le boulot encore une fois. Pour la suite, pour Valtteri Bottas, ben, on lui souhaite d'être dans une monoplace plus compétitive, que ce soit chez Williams en 2017 ou chez une autre écurie. Bon, vraisemblablement, ce sera chez Williams. Ça semble assez bouché ailleurs. Donc, voilà, on attend vraiment ça, pour qu'il puisse lutter pour les podiums plus souvent, voire pour les victoires. Parce que il a un talent qui ne demande qu'à se révéler encore et encore, tout simplement. Donc, on peut lui souhaiter ça. Avant de finir ce podcast, les traditionnelles statistiques de High Speed Dating. Statistiques, voilà, bon. Ils valent ce qu'elles valent, mais bon, c'est toujours sympathique. Valtteri Bottas a donc effectué 4 saisons en F1. Bon, sur le site StatF1, parce que oui, je me suis servi de StatF1, je ne sais pas si je l'ai cité en début de podcast, mais oui, évidemment, StatF1, comment oublier ce site? Donc 4 saisons et 5 saisons si on compte son année où il a été pilote de réserve uniquement. Mais bon, 4 saisons à participer à des Grands Prix, 68 Grands Prix, 9 podiums, hein, quand même, dont 6 en 2014, je le rappelle, un meilleur tour en course. Seulement 5 tours en tête, hein, finalement, 5 tours en tête, c'est pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Et donc 5 tours en tête, ça représente 26 km en tête. Et ben, vous le savez, j'ai encore fait ma recherche sur Google Maps, hein. Sur Google Maps, mais ça aurait pu être sur Mappy ou sur Via Michelin. Évidemment, je cite les concurrents, même si je suis pas obligé, mais j'avais envie de le faire. J'ai vu que 26 km, ça représente la distance entre Verviers et le circuit de Spa-Francorchamps. Donc ce week-end, si vous êtes belge, si vous habitez à Verviers et que vous voulez aller voir de la F1, eh bien, en vous rendant sur le circuit de Spa-Francorchamps, vous pourrez dire à votre entourage, comme ça, ou lors d'un dîner mondain, « Oui, j'ai effectué la distance quasi exacte qu'a effectué Valtteri Bottas en tête d'un Grand Prix de F1. » Voilà, et ça, c'est quand même beau, non? de pouvoir dire ça, de pouvoir placer ça en discussion. L'anecdote totalement inutile, mais que je trouve à chaque fois marrante. Et d'ailleurs, voilà, ben, à l'occasion de ce Grand Prix, ce week-end, puisque voilà, ça me fait la transition. Ce week-end, c'est la reprise de la F1. Déjà, c'est vite passé, hein, le mois, et tant mieux. Tant mieux. C'est pas cool de devoir attendre la F1 comme ça. Et du coup, à cette occasion, eh bien, tous ensemble, lors de ce formidable Grand Prix de Belgique, hein, Spa, c'est quand même magique, hein, comme lieu, comme circuit. C'est assez atypique sur plusieurs points. Et donc, j'attends ce Grand Prix avec impatience et j'espère que vous aussi. Et à cette occasion, vivons notre passion. À bientôt.